penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour Régine.
Bonjour Père Poirier. Avec vous, nous poursuivons notre série d'émissions de ce mois de novembre sur le thème du Pentateuque, le premier ensemble de livres de l'Ancien Testament. La semaine dernière, vous nous avez dit que le Pentateuque a été élaboré au retour d'exil pour former un socle, celui de l'identité d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question de l'identité ?
Alors j'ai parlé en fait effectivement de, d'abord évidemment de Moïse, mais j'ai dit qu'il n'était pas le seul personnage essentiel. Et j'ai parlé notamment de la triade Abraham, Isaac et Jacob. Et là on a vraiment deux approches de l'identité d'Israël. Du côté de Moïse, je vais commencer par lui. Moïse, il est fondamentalement l'homme de la Torah, le médiateur de la loi. Et qui dit loi dit commandement, et qui dit commandement dit observance de ces commandements. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, sous cet angle-là, on est fils d'Israël parce qu'on reçoit la Torah et qu'on y répond par un engagement de toute la vie dans l'observance des commandements. Et donc, c'est une identité qu'on pourrait qualifier d'éthique, voyez. Alors que du côté du livre de la Genèse avec Abraham, Isaac, Jacob et ses 12 fils, on est fils d'Israël parce qu'on est fils, quelque part, de l'un de ces 12, qui eux-mêmes sont les fils de Jacob, qui est Israël, puisqu'il reçoit à un moment donné le nom d'Israël, qui lui-même est le fils d'Isaac et qui est le fils d'Abraham. Donc, de ce point de vue-là, je suis fils d'Israël parce que je descends d'Abraham, Isaac et Jacob. Peut-être que vous vous rappelez un passage dans l'évangile de Jean où il y a une polémique de Jésus avec ceux qu'on appelle les Juifs et qui disent « Mais nous avons comme père Abraham », vous voyez. Et là, nous avons une approche de l'identité de type ethnique. Donc, une identité de type éthique que représente Moïse, une identité de type ethnique que représentent Abraham, Isaac, Jacob.
Vous nous avez aussi dit que la tradition hébraïque appelait donc cet ensemble du nom de Torah, c'est-à-dire la loi. Est-ce uniquement des lois ?
Alors de fait, les ensembles proprement législatifs occupent une surface extrêmement importante du Pentateuque. Si j'étends d'ailleurs cet ensemble au rituel, tout le Lévitique, quasiment, en est composé. Une très grande partie du Deutéronome en est composée. Quasiment toute la seconde partie du livre de l'Exode est composée par ce type de texte. Donc vous voyez l'importance en surface textuelle du nombre de textes législatifs. Mais ils sont enchâssés en quelque sorte à l'intérieur de récits. Et donc elle est tout à la fois, cette Torah, loi et récit. Et d'ailleurs, le mot même de Torah vient d'un verbe hébreu qui signifie « enseigner ». Donc c'est un enseignement à la fois par des récits d'événements, des trajets de peuples, de personnes, et en même temps par effectivement des lois, des commandements, des préceptes qui sont donnés à Israël pour vivre comme peuple de Dieu.
Donnés à Israël, certes, mais pour nous aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qu'on peut dire de ces lois ? Est-ce qu'elles ne seraient pas un peu dépassées ?
Alors, évidemment, beaucoup d'entre elles sont dépassées quant à la lettre. Et de fait, déjà, dès l'époque de Jésus, et pensons aussi aux premiers chrétiens avec Paul, on a reproché aux chrétiens de ne pas respecter beaucoup de commandements. Je pense notamment les commandements liés à la nourriture, à la manière de préparer la cuisine, voilà, ou à la circoncision. Enfin, voilà. Et donc, ce sont des commandements dont nous nous sommes en quelque sorte abstraits. Mais il faudrait dire deux choses. La première, c'est que même si je me place dans une perspective juive, ces commandements doivent être sans cesse actualisés. Et d'ailleurs, toute une grande partie de la tradition juive qu'on trouve dans le Talmud et dans tous les commentaires, ce qu'on appelle la halakha, c'est une actualisation. Comment comprendre ces lois aujourd'hui ? Il est évident qu'un certain nombre de lois sont tout à fait obsolètes, ou des règlements. Par exemple, tous ceux qui étaient liés au sacrifice dans le temple. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Donc même dans le judaïsme, ces lois-là, on ne les observe pas. Mais on peut rentrer, voyez, dans l'intelligence de la loi. Qu'est-ce que ces lois nous disent du rapport et à Dieu et du rapport à l'autre, au prochain, du rapport à l'intérieur de la communauté. Et là, on peut réfléchir sur l'esprit de ces lois et dès lors, voir comment on peut vivre cet esprit aujourd'hui. Et c'est, je sais que c'est un thème de recherche très fort aujourd'hui dans le judaïsme, et ça doit l'être aussi pour nous les chrétiens. Mais je rappelle quand même que nous avons des éléments de cette loi qui sont fondamentaux, et je pense évidemment aux 10 paroles que nous appelons le décalogue. C'est d'ailleurs encore un autre mot d'origine grecque, n'est-ce pas? Les 10 paroles, décalogus, décalogue.
Donc on peut dire que l'esprit de la loi prime sur la lettre. Est-ce que vous auriez un texte pour illustrer cela?
Alors, si vous le voulez, je vais proposer ici dans le chapitre 19 du Lévitique. Alors le Lévitique, ce n'est pas forcément le livre le plus fréquenté par les chrétiens, n'est-ce pas? Lorsqu'on aborde une lecture un peu suivie de la Bible, généralement on s'embourbe aux environs du Lévitique. Mais le Lévitique 19 quand même, le chapitre 19, a ce fameux verset 18 que tout le monde connaît. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc si vous sautez à pieds joints sur le Lévitique, vous sautez à pieds joints sur l'amour du prochain. Et là, on a des lois dont certaines, effectivement, ne sont plus du tout d'actualité. Par exemple, celle qui concerne des relations sexuelles avec une femme qui est une esclave, qui n'a été ni rachetée ni affranchie. Bon, ben ça ne nous concerne plus. Mais en revanche, je prends par exemple au verset 13. « N'exploite pas ton prochain et ne le vole pas. » La paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au lendemain. Je rappelle qu'à l'époque, les ouvriers étaient journaliers. Hein? Mais ça voudrait dire ne retiens pas la paye mensuelle, hein, pourrait-on dire aujourd'hui. Bon, ben voilà par exemple un élément de droit du travail, si je puis dire. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. On l'a très rapidement entendu, d'ailleurs dans les commentaires les plus anciens que nous avons du Lévitique. On a compris sourd, pas seulement la surdité du corps, hein, physique, mais aussi celui qui n'entend pas, qui ne s'y entend pas. Voyez, par exemple, si je dis quelqu'un qui ne s'y entend pas, hein, quelqu'un qui ne s'y entend pas dans les affaires économiques, vous pouvez le rouler si vous lui faites signer un contrat où effectivement il n'y entend rien. Hein. Ou alors quelqu'un qui est aveugle, ben c'est quelqu'un qui voit pas bien. Hein. Alors, est-ce qu'il faut profiter des faiblesses de l'autre? Eh bien, ce texte nous répond que non. Et vous voyez bien tout de suite comment on peut se l'adapter. Je prends un autre verset, toujours dans le même chapitre 19 du Lévitique, au verset 32. « Lève-toi devant des cheveux blancs et sois plein de respect pour un vieillard. C'est ainsi que tu auras la crainte de ton Dieu. C'est moi, Adonai. » Donc il y a le respect des cheveux blancs, le respect de la vieillesse, donc ce n'est pas simplement une question nouvelle. Hein. Et là aussi, il y avait des commentaires de rabbins qui disaient, il y a trois choses que tu ne dois pas faire face à un vieillard. Hein. C'est, attendez, je vais essayer de m'en rappeler. La première chose qu'on ne doit pas faire, c'est ne pas lui céder la place assise. Alors, évidemment, il n'y a pas de métro à l'époque, hein, mais vous voyez bien ce que ça signifie pour aujourd'hui. Hein. Donc, tu dois lui céder la place assise. La deuxième chose, c'est que tu ne dois pas lui couper la parole. C'est intéressant, parce que ça veut dire siradote. Tu ne dois pas lui couper la parole, il faut le laisser s'exprimer. Et la troisième élément, encore une fois, c'est un commentaire très ancien de ce verset du Lévitique. Tu ne parleras pas à sa place. Alors vous voyez comment il y avait des manières très anciennes, hein, donc, et on peut évidemment continuer ce mouvement aujourd'hui, s'inspirer de ces commandements, et là, pour vivre effectivement dans l'Alliance aujourd'hui, et vous voyez, là on entre dans le concret, hein, et c'est là où on voit que la foi biblique, c'est pas uniquement de l'ordre de vérités à croire, mais on pourrait dire que là on est vraiment de vérités à vivre. On est du côté de la praxis. Et donc, Dieu n'est pas seulement celui qu'on vénère, qu'on adore, à qui on offre des sacrifices, mais on doit, au nom de la sainteté même de Dieu, eh bien, respecter le petit, le pauvre, la veuve, l'émigré, le vieillard, celui qui a des défauts, qui ne comprend pas bien, l'ouvrier. Vous voyez, en gros, tous ceux qu'on pourrait exploiter ou opprimer d'une façon ou d'une autre.
Est-ce cela être à l'image de Dieu ?
Ou plutôt, c'est parce qu'il est à l'image de Dieu, cet autre, que par respect pour Dieu, tu dois le respecter, je dirais même le servir. Et vous voyez tout de suite combien la parabole de Jésus, en Matthieu 25, hein, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cet évangile que nous entendons pour le dimanche du Christ roi qui clôture l'année liturgique. Donc vous voyez combien le Pentateuque, pour nous chrétiens, reste fondamental, reste d'actualité. Et ce qui me fascine plus je le travaille, c'est de voir combien, si je puis dire, les évangiles sont raccords avec le Pentateuque.
On peut donc conclure en disant que le Pentateuque est un ensemble ouvert, très proche de la foi chrétienne. Et pour en savoir un peu plus, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient creuser cette question, je vous invite à suivre le cours du Père Poirier qui aura lieu au second semestre à l'IERP, place du Salin, à Toulouse.